Merci les amis. Émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Considérer l'amitié comme un don de Dieu et une mise en pratique de son amour. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Mais comme Paul voulait se présenter devant l'assemblée du peuple, les disciples ne lui permirent pas. Et même quelques-uns des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent des messagers vers lui pour le prier de ne pas s'aventurer dans le théâtre. Actes 19, 23 à 31.
Petite histoire écrite par John Graz. Lorsque je préparais le 3e congrès mondial de la liberté religieuse dans la ville du Cap en Afrique du Sud, j'ai essayé de rencontrer l'archevêque anglican. Il était absent. J'ai mangé à sa table plus tard à Washington. Par contre, c'est avec John Oliver, un révérend très connu, que nous avons collaboré. Quand je lui ai dit que nous étions adventistes, il a exprimé sa surprise. Pour lui, selon son expérience, les adventistes étaient fermés, bornés et peu intéressés par les rencontres d'autres croyants. Mais, malgré tout, le dimanche matin, il m'a présenté à sa communauté réunie dans une grande église du Cap. J'étais assis dans le fond. À la fin du service, il a demandé aux paroissiens de s'asseoir et m'a fait signe de le rejoindre. « Je voudrais vous présenter le docteur John Graz. » C'est ainsi qu'il a commencé sa présentation. Il expliqua ensuite que j'étais le secrétaire général de l'Association internationale de la liberté religieuse et que je préparais le 4e congrès mondial de la liberté religieuse qui aura lieu dans la ville du Cap. Jusque-là, tout allait bien. Avec un petit sourire, il ajouta « Docteur John Graz est un adventiste. » Puis, il marqua un temps d'arrêt de 2 ou 3 secondes. Dans de pareilles situations, on se demande ce qui va suivre, car quelque chose va suivre. L'église était pleine et j'avais l'impression que tous avaient retenu leur souffle. Que va-t-il dire? Pourquoi ne pas avoir tout de suite enchaîné? Pourquoi ce qui semble être une hésitation ou une recherche du mot approprié? Puis, reprenant la parole, il dit « Mais, silence, c'est un homme bien !» Ce qui fut accueilli par un rire général. Le congrès lui a montré une autre dimension de notre mission. Nous avions invité des musulmans, des hindous, des catholiques, protestants, des croyants de religion africaine. Le jour de la clôture, il m'invita dans sa famille avec mon épouse. En nous quittant, il dit « John, j'admire le travail que vous faites. » Écoutons maintenant le message de John Graz.
Ne dit-on pas « il faut se faire des amis avant d'en avoir besoin ». Paul avait des amis à Éphèse. Ils lui ont peut-être sauvé la vie. J'ai souvent pensé à mon ami d'Afrique du Sud. Je souhaitais le revoir, mais moins d'une année plus tard, on m'a annoncé sa mort. Parmi tous les amis que je retrouverai à la résurrection, je suis persuadé qu'il y sera. Cela me rappelle aussi l'un de mes voyages, un des voyages les plus risqués que j'ai fait. Pendant plusieurs années, la persécution s'était abattue sur les communautés chrétiennes d'Indonésie, et celles qui semblaient les plus touchées vivaient dans l'archipel des Moluques. C'était une région où la population avait, durant la période coloniale hollandaise, accepté le christianisme. La minorité chrétienne était attaquée par les extrémistes. Les églises avaient été brûlées, et parmi les victimes chrétiennes, plusieurs adventistes. Le calme revenu, je décidai de me rendre sur place, sur l'île d'Ambon, avec mon collègue indonésien, Iska Misha, et le rédacteur de Liberty Magazine, Lincoln Steed. La première nuit, nous avons dormi à l'hôtel, au centre-ville. L'hôtel était situé à la limite des quartiers chrétiens et musulmans. Nous étions les seuls étrangers. Et la police, prévenue pourtant de notre visite par les autorités de Jakarta, eh bien, cette police, elle était invisible. Quelques années auparavant, dans la rue principale, juste devant l'hôtel où nous étions, chrétiens et musulmans s'étaient entretués en invoquant le nom de Dieu. Notre première journée se passa bien. Nous visitâmes les membres d'église et le soir, je prêchais dans l'église du centre-ville. Il y avait encore sur les murs des impacts de balles. La deuxième église, visitée, était en partie brûlée, ce qui n'empêchait pas les croyants de célébrer le culte. Notre programme comprenait des visites aux autorités politiques, religieuses, chrétiennes et musulmanes. Et tout allait bien, sans problème. Nous étions probablement les seuls occidentaux dans l'île. Pourtant, au début de l'après-midi, nos amis prirent la décision de nous faire quitter l'hôtel. Ils nous conduirent au siège de la mission. Je sentais qu'il y avait probablement quelque part un problème, en tous les cas de l'attention. Ils étaient un peu nerveux, mais pas suffisamment pour y déceler un quelconque danger. Alors, la visite terminée, on nous reconduit à l'aéroport. Et lorsque nous montâmes dans l'avion, je constatais que mon ami et notre guide, Iska Misha, était souriant, mais vous savez, très souriant. Il avait l'air soulagé. Et plus tard, il m'avoua combien il avait redouté que notre présence rallume le conflit et que notre vie même soit menacée. L'idée que notre vie soit en péril ne nous avait même pas effleuré. Nous étions captivés par les témoignages, les miracles, les rencontres avec les représentants des deux communautés. Mais nos amis prenaient conscience que la présence de deux Occidentaux venant des États-Unis comportait un risque énorme pour eux, bien sûr, mais aussi pour nous. Heureusement, ils avaient de bonnes relations. De bonnes relations avec les membres des deux communautés. Et malgré la présence de sympathisants d'Al-Qaïda, nous fûmes protégés. Sans nos amis sur place, la visite aurait été impossible. Paul n'a pas conscience du danger. Pendant les deux années qu'il passa dans la ville, il a été le témoin de nombreuses conversions, de miracles extraordinaires, de confessions publiques. Mais le succès de l'Évangile suscite bien souvent, sinon toujours, des réactions d'hostilité. Ces réactions, elles n'éclatent pas immédiatement au grand jour. Cependant, de temps à autre, des signes avant-coureurs apparaissent. Par exemple, les commentaires faits lors du passage du film « Tu ne tueras point ». Ce film de Mel Gibson raconte l'histoire extraordinaire de Desmond Ross, un adventiste non-violent qui sauva une centaine de soldats à la bataille d'Okinawa pendant la guerre contre le Japon. Le film reçut deux Oscars à Hollywood. Il est en plus considéré comme l'un des meilleurs films de guerre de tous les temps. Ce qui n'a pas empêché une animatrice de la télévision de déclarer que ce film était de la propagande et qu'il ne fallait pas aller le voir. Pourquoi ? Parce que le film raconte l'histoire d'un chrétien qui, au nom de ses valeurs, refuse de tuer, tout en servant son pays et en sauvant des vies. Comme si un héros ne doit pas être considéré comme un héros si son héroïsme est le fruit de sa religion. Oui, en effet, c'est une réaction surprenante, car en général, la meilleure manière de ne pas encourager les gens à aller voir un film, c'est de ne pas en parler. Mais il faut croire que la tentation était pour cette journaliste trop forte. Ce qui va se passer à Éphèse surprend Paul. Il se préparait à quitter la ville pour se rendre à Jérusalem. Je cite, « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. » Démétrius est un commerçant et aussi un homme d'action, un leader. Il a vu le danger. Son business, qui reposait sur le culte de la déesse Artémis, était compromis par la prédication de Paul. Alors il convoque les gens de sa corporation et leur expose la situation. Je cite, « Le danger, dit-il, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Selon lui, les conséquences économiques seraient désastreuses pour la ville et sa population si on laissait Paul continuer à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Revenons à la ville d'Éphèse. Elle fut fondée entre le 12e et le 9e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque de Paul, la ville devait essentiellement sa richesse au tourisme religieux. On y venait d'un peu partout pour visiter ou pour prier dans le temple dédié à la déesse Artémis ou Diane pour les Romains. En fait, l'Artémis d'Éphèse avait subi l'influence orientale. Elle n'était plus la chaste déesse de la chasse, mais la déesse de la fertilité. Au cœur du temple, se tenait une statue grossière de femme aux seins multiples, sculptée dans une pierre noire. On disait qu'elle était tombée directement du ciel. On pense aujourd'hui que cette pierre était une météorite. Le temple, une œuvre magnifique, comptait parmi les 7 merveilles du monde antique. Construit en 560 avant Jésus-Christ, il mesurait 137 mètres de long sur 77 mètres ou 77 mètres de large, avec 122 colonnes de 18 mètres de haut. Il était également le premier établissement bancaire du monde antique. Il offrait aussi, quelque chose d'assez exceptionnel, un droit d'asile aux criminels en fuite. On trouvait donc au temple des banquiers, des hommes d'affaires, des criminels, des croyants, des prêtres, des prêtresses, des prostituées. En fait, on y trouvait le monde dans un espace réduit. La prédication de Paul, et surtout le succès qu'elle rencontre, dérange. Et comme à Éphèse, l'économie, la finance et la religion vont de pair, toucher à l'une met les autres en danger.
Vous écoutez une émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
On croit, parfois, que les persécutions religieuses sont le fait de l'intolérance religieuse. Dans leur ensemble, les populations aujourd'hui, surtout dans nos régions, acceptent qu'un groupe prétende détenir la vérité. Il y a de la place dans nos sociétés occidentales pour 1000 vérités. Mais lorsque vous touchez à l'économie ou à la politique, les choses changent. Je constate que beaucoup d'attaques contre les croyants évangéliques, par exemple, ont des arrière-pensées idéologiques et politique. Et cela se comprend. Imaginez, par exemple, que dans les 10 années qui viennent, la population de chrétiens pratiquants représente 75%, 75% des habitants de votre ville. Il y aurait des conséquences économiques, probablement. Imaginez que 30% de la population devienne musulmane ou hindoue. Les effets sur le commerce de la viande, de l'alcool seraient sensibles. Il faudrait aussi ajouter de nouveaux jours fériés. Il y aurait des gagnants et des perdants. Certains se sentiraient menacés. Eh bien, c'est ce qui se passe à Éphèse. Et voilà pourquoi la foule en colère se rend au théâtre. Les bruits les plus fous circulent. La ville et sa déesse sont attaquées par des étrangers. Il faut réagir. Vous voyez, il faut se méfier des mouvements de foule. L'individu dans la foule croit qu'il n'a plus de responsabilité. Il peut casser, brûler et même tuer avec le sentiment d'être au-dessus des lois. C'est pas lui, c'est la foule. À Éphèse, la foule, en colère, demande des coupables. Quelqu'un doit payer. Les compagnons de Paul, Gaius et Aristarque, feront l'affaire dans les médias. Ils sont conduits au théâtre. Le théâtre d'Éphèse pouvait contenir 25 000 personnes. Apprenant cela, Paul veut s'y rendre. Il pense que c'est une opportunité à saisir pour prêcher l'évangile devant 25 000 personnes. Il a confiance en lui, il a confiance en Dieu. Il aime affronter la foule pour la bonne cause. Il n'a pas peur. Tant pis pour le risque. Paul, dit le texte, voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Eh bien, on les comprend. Les disciples, ils sont inquiets. Comment tout cela va se terminer et pour quel résultat? Des lieux de culte seront brûlés, probablement. Des chrétiens tués. Un zèle mal contrôlé risque de mettre en danger toute une communauté. Paul a-t-il compris? Pas sûr. C'est alors qu'une autre catégorie de gens intervient, les Asiarques, qui, écrit Luc, étaient ses amis. Que font-ils? Ils lui envoyèrent un message afin qu'il ne se rende pas au théâtre. Alors, qui sont ces amis de Paul? On les appelle les Asiarques, en grec, loi asiarkoi. Dans la Bible Second, ils sont présentés en note comme des magistrats dont la surveillance s'exerçait sur les choses religieuses et sur les jeux publics. Ils faisaient partie des plus nobles et des plus riches familles de la province d'Asie. Mais ce n'est pas tout. Ils étaient aussi membres d'une ligue qui avait pour but de faire la promotion du culte officiel, du culte de l'empereur. Oui, du culte de l'empereur. Chaque année, un Asiarque était élu pour la province romaine d'Asie. Donc, lorsque Luc écrit « Les Asiarques étaient ses amis », cela signifie que Paul avait des amis très haut placés, non chrétiens, puisqu'ils étaient chargés de promouvoir le culte de l'empereur. Malgré cela, ils sont ses amis. À cette époque, les chrétiens ne sont pas encore perçus par Rome comme des ennemis, mais les choses vont changer. Comment se fait-il que Paul a des amis parmi ses dirigeants chargés de promouvoir une autre religion, la religion officielle? N'oubliez pas que l'empereur se prétendait Dieu à cette époque, et c'est justement sur ce point que les terribles persécutions vont s'abattre sur les chrétiens. Ces derniers refusaient de reconnaître un autre Dieu que le Seigneur. Au cours de mes voyages au Japon, j'ai souvent entendu le récit de pasteurs qu'on voulait forcer à reconnaître l'empereur du Japon, comme Dieu. Témoignage aussi que j'ai recueilli en Corée. Et ceux qui refusaient étaient torturés, puis exécutés. Cela se passa durant la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez, ce n'est pas si loin. Alors comment et pourquoi Paul est devenu leur ami? Paul s'est fait des amis partout où il passait, et pas seulement des convertis. Certains ne sont jamais devenus chrétiens pour autant. Mais il avait de la sympathie pour eux et eux avaient de la sympathie pour lui. On pense parfois que si vous êtes un chrétien convaincu, vous êtes condamné à des relations exclusivement avec vos corrélégionnaires ou avec vos ennemis. Autrement dit, avec ceux qui acceptent la bonne nouvelle et ceux qui la combattent. Eh bien, c'est une vision très manichéenne. Car Jésus aussi avait des amis qui ne sont peut-être jamais devenus ouvertement ses disciples. Joseph d'Arimathée, Nicodème, le centurion. Alors qu'est-ce que cela nous apprend sur les relations de Paul avec les autres? On pourrait penser que le fait d'être des croyants pratiquants nous isole. Personne n'est intéressé par notre amitié, c'est ce qu'on pourrait penser. Nos principes, notre genre de vie forment un obstacle avec les autres. Nous pourrions ainsi en arriver à croire que pour se faire de bons amis, il faudrait vivre comme eux. Ça, c'est l'autre extrême. C'est-à-dire boire avec ceux qui boivent, fumer avec ceux qui fument, danser avec ceux qui dansent. Mais ce n'est pas vrai. Partout où j'ai exercé mon ministère, je me suis fait des amis, de bons amis, avec qui j'ai encore des relations aujourd'hui. Et parmi eux, des prêtres, des pasteurs, des rabbins, des imams, des croyants, des incroyants, des professeurs, des journalistes, des chefs religieux, des diplomates, des ambassadeurs, etc. Des amis qui m'ont accepté comme je suis et qui ont gardé leurs propres convictions. Certains ont agi derrière la scène en prenant des risques pour me défendre à certaines occasions. Je pense par exemple à ce capitaine de l'armée qui faisait trembler les jeunes soldats comme moi. Mais c'est lui qui m'apporta ses encouragements et son soutien quand j'avais un problème de conscience. Il était musulman. Musulman comme d'autres amis que j'ai eus en coopérant avec les Nations Unies. Et combien d'autres que je ne nommerai pas par respect. Pensez à tous les amis qui ont été pour vous un réconfort, une aide dans les moments difficiles. Ils sont un cadeau de Dieu, et peu importe leur religion. Ma première visite à la Maison-Blanche était à l'occasion de la présentation du premier ambassadeur at large pour la liberté religieuse dans le monde. Le président Bill Clinton et la secrétaire d'État Madeleine Albright l'ont présenté. Nous n'étions pas un grand groupe et j'ai pu dire quelques mots au président. Ensuite, j'ai invité l'ambassadeur et en le voyant, avec son épouse, ses enfants, je me suis dit « j'aimerais devenir son ami ». Cela semblait impossible, mais même si nous étions appelés à collaborer d'assez loin. Et pourtant, nous sommes devenus amis. Il nous a invités, mon épouse et moi, chez lui pour un week-end. Et aujourd'hui encore, nous nous écrivons régulièrement. Nous sommes, comme il le dit, des amis pour toujours. Bien sûr, il ne faut pas instrumentaliser l'amitié et se faire des amis par intérêt. Et puis, quand vous n'en avez plus besoin ou quand ils n'ont plus besoin de vous, c'est fini, on ferme la porte, terminé. Il faut recevoir l'amitié comme un don de Dieu. Il est aussi vrai que si l'amitié peut nous enrichir, elle peut aussi nous perdre. C'est un autre aspect. Certains d'entre vous se souviennent du chant de Georges Brassens, « Les copains d'abord ». Eh bien, pour Jésus, pour les disciples, c'est Dieu d'abord. L'amitié ne doit pas remettre en question notre fidélité à Dieu et nos principes. Tout naturellement, c'est notre fidélité à Dieu qui va nous conduire dans le choix de nos amis. L'ami sincère me respectera, même s'il ne partage pas mes convictions. Je le respecterai, même si je ne partage pas les siennes. La priorité de Paul n'était pas de se faire des amis, mais de témoigner de sa foi. « Malheur à moi si je n'évangélise !» écrit-il. Par contre, il ne rejetait pas l'amitié d'où qu'elle vienne. Il en fut de même pour Abraham, Joseph, Esther, Néhémie, Esdras, Jérémie. C'est en prêchant la bonne nouvelle que Paul se faisait des amis. Sa foi, son amour pour les autres impressionnaient, et il en était de même pour Jésus, sa gentillesse, son attention pour les plus faibles, pour les exclus, ne pouvait laisser indifférent. Beaucoup voulaient devenir ses amis. Qu'il en soit de même pour nous. Ayons des amis. Cultivons notre amitié, prions pour nos amis et soyons des amis porteurs d'espérance, des amis qui encouragent, qui font une différence. Des amis que l'on cherchera dans les moments difficiles car on saura qu'ils sont l'ami du Sauveur, l'ami du Seigneur.
Pour être pratique.
Et maintenant, trois points pour être pratique. Le premier point, l'amitié et les amis sont tout d'abord un don de Dieu et non le fruit du hasard ou des atomes crochus. Deuxième point, notre amitié devrait enrichir ceux que nous fréquentons au travail, à l'école. Elle devrait être un plus. Au-delà de ce qui peut nous opposer, de nos différences, les gens qui nous entourent ont un grand besoin d'amis sincères qui les respectent. Et troisième point, le Seigneur nous recommande de prier pour nos ennemis, mais il faut aussi prier pour nos amis et leur dire « J'ai prié pour toi ». Quand on prie pour quelqu'un, il ou elle devient plus proche, plus important. Prier pour nos amis ne peut que renforcer notre amitié. Alors oui, on priera pour leur salut et pour leur conversion. On priera pour eux.
Cette émission vous était proposée par John Graz. Retrouvez le contenu de toute la série dans son livre « Fortifie-toi et prends courage ».